Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition consacrée à la Chine et l'ONU. Depuis le 1er août, c'est un Chinois qui est à la tête de la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture. Une première. Le 23 juin dernier, Ku Dongyu, un biologiste de 55 ans, l'emportait largement face à la candidate française soutenue par l'Europe et un Géorgien soutenu par Washington. Ku Dongyu succède au Brésilien José Graziano da Silva. La victoire du candidat chinois s'inscrit dans une certaine logique. La FAO est dirigée depuis un quart de siècle par le représentant d'un pays émergent. Tradition somme toute encore rare au sein des organisations internationales. Les dossiers de la FAO sont d'une importance majeure pour une bonne partie de l'humanité. Mais l'enjeu de l'arrivée du candidat chinois dépasse la seule FAO. Pékin, depuis plusieurs années, tente avec un succès certain d'accroître son rôle et son influence au sein des institutions internationales. En contrepoint d'une Amérique en retrait, la montée de la Chine à l'ONU est aujourd'hui un élément central. La Chine est-elle en passe de prendre le pouvoir aux Nations Unies? C'est ce que nous allons voir avec nos invités. Alexandra Novoselov, chercheur associé au Centre Thucydide de l'Université de Paris Panthéon-Assas et chercheur non résidente à l'International Peace Institute, également auteur de plusieurs ouvrages dont le Conseil de sécurité des Nations Unies, Paris aux éditions du CNRS. Bonjour.
Bonjour.
Et par téléphone, Arthur Boutelis, conseiller senior à l'International Peace Institute, enseignant à l'Université de Columbia de New York et auteur de plusieurs livres, dont un article sur la privatisation des opérations de maintien de la paix dans l'ouvrage intitulé « Vers une africanisation des opérations de maintien de la paix chez l'armatan ». Bonjour.
Bonjour.
La Chine est accusée d'avoir mené une campagne particulièrement agressive et d'avoir acheté des voix de pays membres en effaçant des dettes ou des arriérés de paiement auprès de la FAO. La victoire du candidat chinois, je le disais en introduction, s'inscrit néanmoins dans une certaine logique. La FAO est dirigée par un représentant d'un pays émergent, mais surtout, non seulement Pékin s'investit depuis des années dans la FAO, y compris sur le plan financier, mais la Chine peut aussi se prévaloir d'un réel succès dans la lutte contre la pauvreté et l'insécurité alimentaire. Il n'en reste pas moins que Ku Dongyu a été ministre de l'Agriculture dans son pays. La Chine, pays dont le modèle est plutôt discutable, on pense aux nombreux scandales dus au non-respect des normes sanitaires. On n'oublie pas non plus que le succès de la Chine dans la lutte contre l'insécurité alimentaire repose aussi sur le développement d'une agriculture non durable. La Chine est l'une des régions les plus affectées par la désertification, l'épuisement des ressources et la pollution des sols. La question est évidemment de savoir si Pékin profitera de sa présence à la tête de la FAO pour faire évoluer ses propres pratiques agricoles. En tout cas, c'est un pas de plus dans la stratégie de Pékin visant à accroître son rôle et son influence au sein des institutions internationales. Arthur Boutelis.
Oui, absolument. Je crois que la volonté de la Chine d'obtenir ce genre de poste stratégique, puisqu'il s'agit de l'agriculture, des questions de sécurité alimentaire, ça ne surprend pas. Mais c'est plutôt la manière qui a un peu choqué, l'usage du bâton et de la carotte, de pression. Il y a eu des rumeurs d'achat de vote qui fait dire que la Chine n'a pas joué selon les règles dans le cadre de cette élection. Apparemment, certains pays ont retiré leur candidat sous pression. Alors, c'est pas la première fois qu'on voit ça à l'ONU. On se souviendra, par exemple, en décembre 2017, dans le vote sur le statut de Jérusalem, quand la représentante américaine avait dit qu'elle prendrait des noms, « we will take names ». Mais quand même, c'est particulier, surtout venant de la Chine. Je crois que dans le cadre de cette élection aussi, ce qui a choqué, c'est l'élection au premier tour de Ku Dongyu, alors que l'Union européenne avait un candidat et que les Américains avaient appelé à faire barrage contre la Chine. Je pense qu'on peut lire cette élection de deux manières. La première, c'est la Chine est capable de mobiliser une majorité écrasante quand elle veut un poste, ça c'est indéniable. Mais en même temps, si elle a besoin de tordre certains bras et qu'elle ne peut pas simplement s'appuyer sur son soft power, le gagnant-gagnant, je pense que ça pose aussi certaines questions. Mais comme vous le disiez, il faut voir ça aussi, je pense, dans une stratégie plus large de la Chine depuis 2007, on peut dire. Quand elle a pris l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, seulement quelques années après avoir rejoint l'organisation en 2003, aussi la prise la même année du département des affaires économiques et sociales, DESA, que les gens ne voient pas forcément comme un département stratégique, mais qui, ces dernières années, en fait, se renforce, puisqu'elle traite des questions de développement. Avec les réformes de l'ONU, en ce moment, elle joue un rôle plus important. Donc c'est dans ce cadre-là. Alors avec la prise de la FAO, bien sûr, je crois ce qui fait grincer les dents, c'est que maintenant la Chine a 4 agents spécialisés sur 15. puisqu'elle a aussi l'organisation, elle a la tête de l'Organisation Aviation Civile, l'Union Internationale des Communications, l'Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel, et pour certains États membres, ça commence à faire beaucoup.
Alors, on développera bien sûr tout cela, Alexandra Novoselov. On l'a dit, les États-Unis avaient un candidat, les Européens en avaient un autre. Ce qu'on voit aussi, c'est que, d'une certaine manière, la Chine parvient toujours à ses fins grâce au soutien ou à la neutralité de pays africains, latino-américains, de l'ex-camp soviétique.
Oui, enfin là, en l'occurrence, elle a bénéficié aussi de la division des autres, puisque apparemment, les Européens n'ont pas été complètement unis pour soutenir la candidate française. Et puis ensuite, c'est ce qu'a dit Arthur, c'est-à-dire tous les moyens sont bons et que là, il y a même eu apparemment des annulations de dettes, des promesses d'annulation de dettes. Enfin, ce sont des moyens que personne d'autre n'a, à part peut-être les États-Unis, mais là, ils avaient sans doute, ils soutenaient sans doute un candidat qui était trop faible. Donc c'est ça, c'est-à-dire que c'est une espèce de rouleau compresseur qui s'est mis en marche et contre lequel finalement. On ne pouvait rien faire.
Alors, on a souligné aussi à cette occasion une certaine naïveté du côté des Européens. C'est vrai que la candidature française n'était pas accompagnée de gros moyens. On parle de quelques centaines de milliers d'euros, là où les Chinois, vous parlez de rouleaux compresseurs, c'est vrai qu'ils arrivent dans ce type de course avec des moyens surdimensionnés par rapport aux nôtres.
Oui, mais en même temps, on est dans... Enfin, oui, on peut parler de naïveté, mais en même temps, on a voulu jouer le jeu de voilà d'une élection normale, entre guillemets, sans promettre monts et merveilles. Et c'est vrai qu'on s'est fait battre. Est-ce que là, il n'y a pas quelque chose de déloyal? Enfin, une... On n'est pas à armes égales. Est-ce que ça doit être une leçon pour l'avenir? Je ne sais pas. Est-ce que maintenant les élections dans le système multilatéral vont être comme les élections au niveau national, comme on voit aux États-Unis avec des millions de dollars déversés? Je trouve pas que ce soit un progrès, personnellement.
Arthur Boutelis, vous souhaitez réagir là-dessus ou?
Oui, simplement pour dire que oui, je suis d'accord avec ce qu'Alexandra vient de dire. En même temps, il faut quand même reconnaître le pouvoir d'influence de la Chine, qui non seulement est membre des 5 membres permanents du Conseil de sécurité, mais aussi a une affinité particulière avec le groupe des 77, le G77, qui est quand même 132 pays en voie de développement. Et donc, bien sûr, ça pèse sur n'importe quelle élection et sur les votes, notamment à l'Assemblée générale. Alors, si en plus de ça, il y a une aide bilatérale, des soutiens aux dettes et maintenant ce nouveau programme des routes de la soie, accompagné d'un discours de non-ingérence, de respect de la souveraineté, de coopération sud-sud, ce discours-là quand même trouve écho dans un certain nombre de pays. C'est pour ça que je suis en fait d'une certaine manière un peu surpris que la Chine ait dû peut-être utiliser d'autant de pression dans le cadre de cette élection-là, parce que simplement en termes d'arithmétique, la Chine aussi a un vrai poids et ça soulève les questions que vous discutez à l'instant avec Alexandra.
En tout cas, la Chine, à l'évidence, voulait mettre toutes les chances de son côté, Alexandra Novoselov. Alors, Pékin voit dans cette nomination une récompense au soutien de la Chine, au multilatéralisme et au développement mondial. Elle illustre la victoire de la Chine, un véritable plan de bataille pour occuper des postes stratégiques. Arthur Boutelis l'évoquait à l'instant. Au sein de l'ONU, Pékin dirige les organisations en charge de l'aviation civile internationale, du développement industriel et des télécommunications. Un Chinois pilote par ailleurs le département des affaires économiques et sociale des Nations Unies. Bref, on peut y voir un appétit insatiable qui suscite aussi des appréhensions et des craintes, en particulier crainte que la Chine impose ses règles aux institutions pour servir ses propres intérêts. Et d'une certaine manière, on ne sait jamais très bien non plus si les représentants chinois, une fois nommés à la tête de ces institutions, se considèrent au service de celles-ci ou aux ordres du Parti communiste chinois. On a en tête ce qui s'est passé en 2018 quand la Chine a ordonné au président chinois d'Interpol, de rentrer à Pékin afin d'y être arrêté et détenu au secret. Alexandra Novoselov.
Oui, alors bon, on peut pas reprocher à la Chine de ne pas défendre ses intérêts. Tous les États le font aux Nations Unies, et c'est vrai qu'il y a une ambiguïté sur le positionnement des Chinois au sein du système. En même temps, beaucoup de ressortissants d'États privilégient aussi leurs intérêts, mais ça se voit peut-être un peu moins. On remarque aussi la nomination pour la première fois d'un représentant spécial chinois pour la région des Grands Lacs. Ça aussi, c'est une sorte de première. Il faut aussi dire que la Chine est maintenant le deuxième contributeur financier aux Nations Unies, au budget régulier des Nations Unies. Donc, d'une certaine manière, elle veut que ça se traduise par une représentativité au sein du système. Et donc, elle y met les moyens. Et ça encore, c'est pas, d'une certaine manière, c'est pas choquant, c'est pas nouveau. Tous les États l'ont fait. Le Japon, quand il est devenu deuxième contributeur, l'a fait, etc., etc.
Alors, justement, pour ce qui est des contributions des uns et des autres, vous le disiez, la Chine consolide sa place au sein des Nations Unies, et lors de l'adoption du barème des contributions au budget ordinaire des Nations Unies pour les années 2019-2021, pour nos auditeurs, c'est une précision importante, les États-Unis n'ont pas vu baisser leur quote-part, elle reste au plafond de 22%, et la Chine donc est devenue deuxième contributeur avec 12%, soit un bond en avant de 50% par rapport à la contribution fixée en 2015, qui n'atteignait pas 8%, et le Japon qui recule à la troisième place avec 8,56%. Arthur Boutelis, un commentaire sur ce palmarès des contributions aujourd'hui à l'ONU ?
La quote-part, en fait, c'est un calcul arithmétique, ça dépend de l'économie du pays, donc en fait c'est le reflet de la montée en puissance économique de la Chine, mais c'est vrai qu'aujourd'hui elle est deuxième contributeur au budget régulier, mais également au budget de maintien de la paix. Et c'est pour ça aussi qu'elle entend peser plus lourd dans les postes. Alors, c'est intéressant peut-être pour revenir sur le point précédent. La Chine, je crois qu'il faut lire, peut-être à la différence d'autres États membres, je crois qu'il y a une vraie stratégie de long terme. Bon, l'exemple de département des affaires économiques et sociales, par exemple, où la Chine... La plupart des États membres ne voyaient pas forcément ce département-là à New York comme un département stratégique. Il y avait des rumeurs en 2016, donc avant le renouvellement des postes, que la Chine chercherait plutôt à convoiter plutôt le département des opérations de maintien de la paix. Et finalement, elle garde ce département-là, qui aujourd'hui lui permet vraiment d'avancer ses nouvelles routes de la soie en lien avec les objectifs de développement durable, de renforcer son poids du côté du développement et une certaine visibilité. On voit aussi la Chine qui, en plus de ses contributions, comment dire, obligatoires, commence à jouer un peu les stratégies d'influence que d'autres États depuis longtemps ont adoptées. La Chine, par exemple, qui n'a jamais été un gros bailleur en termes de contributions volontaires, a créé un fonds Chine-ONU pour la paix et le développement, qui était un petit peu mystérieux au moment de l'annonce, c'était en 2015, je crois, c'était 1 milliard sur 10 ans. Aujourd'hui, c'est un peu plus concret, on parle de 200 millions par an que l'ONU peut utiliser, et ça, c'est un vrai pouvoir d'influence aussi. La Chine commence à placer des experts associés dans différents départements de l'ONU, donc c'est des staffs juniors, quelque chose que les Européens font depuis longtemps, mais c'est vraiment de l'investissement sur du long terme, en espérant que ces employés donc chinois au sein de la bureaucratie monteront dans l'organisation et éventuellement auront une influence. Un autre élément intéressant, c'est par exemple le fait que la Chine a fait, avec l'arrivée d'Antonio Guterres, a placé aussi un Chinois plus senior au 38e étage, donc dans le bureau du secrétaire général. C'était quelque chose que les Américains faisaient depuis un moment. Il y a toujours un conseiller américain qui était de la campagne de Trump. Aujourd'hui, il y a aussi un Chinois. Donc on voit la Chine sur une stratégie de long terme, mais qui de plus en plus adopte des stratégies d'influence qu'elle a vu d'autres États pratiquer. Et clairement, il y a une accélération avec, je pense, l'arrivée du président Xi Jinping, et particulièrement depuis 2015, et les annonces qu'il avait faites à l'Assemblée générale lors de son discours.
Alexandra Novoselov, la Chine est membre fondateur de l'ONU en 1945, mais on a vu finalement ce pays tarder à prendre, ou en tout cas décider voilà, d'avoir une vraie stratégie, une vraie diplomatie onusienne. On évoque beaucoup les événements de 1989, les événements de Tiananmen, comme un élément déclencheur pour la Chine et la volonté de Pékin de se protéger d'une certaine manière par rapport au drame qui s'était déroulé sur la place Tiananmen et en particulier par rapport à la Commission des droits de l'homme. Ils ont vraiment, à partir de ce moment-là, décidé d'investir les instances onusiennes les unes après les autres. Et vous êtes d'accord avec cette analyse ?
Oui, il se trouve que c'est dans les années 80 que, par exemple, la Chine participe pour la première fois une opération de maintien de la paix, c'est en Namibie en 1989. La première contribution financière, c'est en 1981. La Chine entre dans un comité qui peut paraître un peu technique, mais c'est le comité spécial des opérations de maintien de la paix, et donc qui gère tout un peu toute la doctrine maintien de la paix. Elle entre dans ce comité du C-34 en 1988. Donc il y a et c'est vrai que la Chine est membre fondateur, la République populaire de Chine arrive aux Nations Unies en 1971. Il y avait une certaine prudence parce que ils avaient été assez bien entendu opposé à la guerre de Corée, donc qui s'est déroulée sous drapeau, ou en tout cas avec l'utilisation du drapeau des Nations Unies. Donc ils ont, mais tout ça s'est renversé d'une certaine manière, comme vous le dites, dans les années 80 et vers la fin des années 80, pour entamer un réinvestissement, une réintégration dans le système international. Et bien entendu, ça passe par le système des Nations Unies. Et là, on a vu une progression, par exemple, pour les opérations de maintien de la paix. On a une vraie progression depuis lors, où on passe de... je crois qu'il y avait... elle était... au 42e rang, jusqu'au 13e rang, et aujourd'hui elle est au 11e rang. Donc ça s'est fait progressivement. Il y a une entrée dans les à partir des événements Tiananmen, et il y a une accélération fin des années 90, début 2000, et aujourd'hui on est alors je vais pas dire qu'on est à plein régime, parce que je crois qu'on est encore dans un investissement qui est savamment dosé, qui se fait progressivement, parce que on est, comme l'a dit Arthur, sur du long terme, et que les Chinois ont aussi reconnu, ont vu en interne qu'ils n'avaient pas forcément toutes les capacités pour s'investir. C'était notamment vrai pour ce qui est des opérations de maintien de la paix, où ils étaient il n'avait pas ses capacités d'intervenir sur d'autres théâtres, notamment à l'extérieur. Et puis, il y avait aussi un blocage idéologique, c'est-à-dire qu'ils ont été très réticents au départ à l'égard de ces opérations qui intervenaient de plus en plus, notamment après le début des années 90, dans des affaires intérieur d'État. Et donc ça a pris du temps aussi pour qu'ils fassent ce changement un peu, cette adaptation au monde. Parce que je crois que il y a, à travers cet investissement dans le système onusien, il y a aussi une sorte d'adaptation au monde. Parce qu'il y a des concepts qui émergent, qui font leur chemin, par exemple la protection des civils, etc. Et les Chinois ne peuvent pas rester à la porte de ce genre de d'évolution. Et donc ça met du temps. Ils prennent leur temps pour s'investir correctement, avec les bonnes capacités, avec les bonnes personnes. Voilà.
Des diplomates particulièrement compétents, c'est ce que l'on souligne beaucoup, en tout cas c'est ce que j'ai lu dans la préparation de cette émission, et vous parliez donc de la Chine comme 11e contributeur de contingent de casque bleu, et le plus grand contingent de casque bleu au niveau des membres permanents du Conseil de sécurité. Géopolitique, on retrouve nos invités Arthur Boutelis et Alexandra Novoselov après le journal. À tout de suite.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Depuis le 1er août, c'est un Chinois qui est à la tête de la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture. Regard sur la Chine et l'ONU, nous retrouvons nos invités. Arthur Boutelis, par téléphone, conseiller senior à l'International Peace Institute, enseignant à l'Université de Columbia de New York, et Alexandra Novoselov, chercheur associé au Centre Thucydide de l'Université de Paris Panthéon-Assas et chercheur non résidente à l'International Peace Institute. Arthur Boutelis, on évoquait dans la fin de la première partie de l'émission la progression de la Chine dans les instances onusiennes, avec peut-être cet élément déclencheur qui a été les événements de Tiananmen en 1989, qui ont fait que la Chine, pour se protéger d'une certaine manière, a vu la nécessité d'investir plus à fond les instances onusiennes.
Oui, absolument. Comme le disait Alexandra avant la pause, je pense que c'est l'engagement à l'ONU de tous azimuts, et notamment sur le maintien de la paix, c'était une façon de sortir de l'isolement dans les années 90, suite à Tiananmen, et de travailler avec les Occidentaux après la fin de la guerre froide, et aussi, bien sûr, de rassurer sur l'émergence de la Chine, ce qui fonctionne beaucoup moins bien aujourd'hui. Et la question des droits de l'homme, je crois, est vraiment intéressante, parce que c'est peut-être là qu'on a vu le changement le plus radical, et peut-être aujourd'hui l'attitude, là où la Chine est peut-être la plus proactive, la plus agressive à l'ONU. On est passé d'une stratégie qui consistait simplement en fait à essayer d'étouffer les critiques à une stratégie aujourd'hui qui véritablement cherche à imposer beaucoup plus un certain nombre de valeurs relativistes, on pourrait dire, sur cette question des droits de l'homme. On voit ça au Conseil des droits de l'homme à Genève, où la Chine pousse cette question, cette approche du développement en fait comme droit humain, avec des succès, avec des résolutions là-dessus. Elle a été capable de créer un groupe de pays en fait amis sur ces questions-là qui est assez efficace. Elle appuie la question d'un plus grand équilibre entre les droits socio-économiques et les droits politiques et civils, une approche vraiment interétatique des droits de l'homme. Et on a vu lors de la dernière le dernier examen périodique universel de la Chine cette année, en fait, une Chine très efficace à faire taire en fait les critiques et à limiter l'espace pour la société civile. En juillet, c'était très intéressant, il y avait une lettre qui a été écrite par 22 États membres qui dénonçait la situation des Ouïghours au Xinjiang. En l'espace de 2 jours, la Chine a été capable de mobiliser 37 États membres qui ont écrit une lettre de réponse, de soutien à la Chine. Mais cette stratégie aussi de la Chine sur les droits de l'homme, en fait, va au-delà de Genève. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on commence à la voir au Conseil de sécurité aussi, où la Chine a réussi à bloquer des briefings par le haut commissaire aux droits de l'homme de l'ONU sur la Syrie, donc à mobiliser une minorité de blocage, donc de 9 voix au Conseil de sécurité, à la 5e commission, donc sur les questions financières, de plus en plus s'attaquer au poste de droits de l'homme. Mais aussi, récemment, a fait un coup majeur en invitant le secrétaire général adjoint pour les questions de contre-terrorisme, donc le russe Voronkov. Donc c'est une position qui a été créée assez récemment à New York et qui a vraiment donné une possibilité à la Chine de capitaliser là-dessus, d'une visite d'un officiel de l'ONU. Donc là, on voit vraiment un changement de gamme dans l'approche chinoise.
Mais tout n'est peut-être pas gagné pour autant. Bon, d'abord, ce qu'évoque à l'instant Arthur Boutelis montre bien aussi cette alliance entre la Chine et la Russie, hein, au niveau notamment du Conseil de sécurité, où les deux pays œuvrent plutôt de concert. Mais pour rester sur la question des droits de l'homme, Alexandra Novoselov, on a vu Michelle Bachelet, la commissaire aux droits de l'homme, demander l'accès à la région autonome ouïghour, à une commission d'enquête. Ça, c'était en mars dernier, toujours rien apparemment. Bon, enfin, tout de même, l'affaire Ouïghour, elle commence à faire du bruit. La question étant de savoir s'il y aura des sanctions. On en est loin.
Oui, je pense que le fait que la Chine soit membre permanent du Conseil de sécurité la protège d'un certain nombre de choses, et notamment d'une implication plus importante du Conseil sur ses problèmes intérieurs. La question au Xinjiang est une question récente. On peut parler de la question du Tibet. Demain, si les choses dégénèrent vraiment à Hong Kong, c'est aussi une question que la Chine ne voudra absolument pas traiter au niveau du Conseil. Et puis, on a vu aussi la Chine extrêmement réticente, mais là on est en dehors de ces affaires intérieures, sur les questions birmanes, sur la question des Rohingyas, où elle ne voulait absolument pas que la chose soit traitée au Conseil. Bon, il y a eu quand même, je crois, des réunions publiques, etc., mais pas de réelle prise de position. Donc au Conseil, il y a une stratégie vraiment de défense du périmètre, du précaré, si je puis dire, des défenses des intérêts nationaux. Et ça, bien entendu, il y a aussi la question de Taïwan, qui est absolument bannie des discussions au Conseil et qui va même plus loin. C'est-à-dire que la Chine n'a pas hésité à mettre son veto au renouvellement d'une opération de maintien de la paix dans les années 90. C'était la Fort de Prenu qui était la première mission préventive dans l'ancienne République de Macédoine. Elle n'a pas hésité à mettre son veto au renouvellement de cette opération parce que les autorités macédoniennes avaient commencé des relations avec Taïwan. Donc la porte peut se refermer très rapidement. Et bien sûr, il y a le dossier nord-coréen qui est regardé de très 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 près. Alors la Chine ne tient pas la plume, comme on dit, sur les résolutions, mais elle regarde de très près toutes les résolutions qui sont faites, notamment bien entendu concernant les sanctions. Et toute avancée du dossier nord-coréen à New York est bien entendu conditionnée par l'attitude de la Chine sur ce dossier.
Donc on l'a bien compris, la vision des droits de l'homme de la Chine, c'est une vision centrée, vous le disiez, Arthur Boutelis, sur le progrès économique et social et non sur la sauvegarde des libertés. Plus généralement, ce qu'on voit aussi, c'est de la part de la Chine, un refus des valeurs universelles que la Chine considère comme étant celles de l'Occident au profit d'un modèle autoritaire chinois. Qu'est-ce que l'on peut dire des prochaines batailles de la Chine au sein de l'ONU et quels sont les obstacles à cet entrisme chinois au sein des Nations Unies, Arthur Boutelis?
C'est un peu compliqué de prédire l'avenir, mais je pense que un point sur lequel j'insistais, c'est qu'on voit clairement l'affirmation de la Chine sur les deux piliers de l'ONU, donc du développement et des droits de l'homme. Je crois qu'aujourd'hui, la bataille va être sur le troisième pilier, politique, paix et sécurité. Alexandra a mentionné qu'on a eu, au début de cette année, la première nomination d'un envoyé spécial chinois pour les Grands Lacs, Wang Xia, qui a été précédemment ambassadeur chinois dans plusieurs pays africains. Ça, c'est intéressant, c'est nouveau. Au Conseil de sécurité, même si en effet la Chine reste un peu en retrait et souvent derrière la Russie, elle n'a pas vraiment à faire grand-chose. On sent quand même une velléité à vouloir impacter les résolutions, les mandats un peu plus. Ça peut paraître anecdotique, mais par exemple, en 2016, je crois, quand la Chine a introduit dans la résolution sur l'opération au Sud-Soudan UNMISS, la possibilité pour la mission onusienne de protéger les puits de pétrole, en fait, je crois que ça c'est quand même quelque chose. La Chine a appuyé pour introduire une référence aux nouvelles routes de la soie dans la résolution sur l'opération onusienne en Afghanistan, UNAMA. Et là, je pense que même si Alexandre disait que la Chine, pour l'instant, n'a pas la plume, puisque traditionnellement, c'est le P3, donc la France, le Royaume-Uni et les États-Unis plutôt qui écrivent les résolutions, je pense que c'est peut-être une prochaine étape où la Chine va se sentir plus à même, en fait, de s'exposer un peu plus. Je pense qu'il faut regarder aussi au-delà de l'ONU pour les prochaines batailles, puisque la Chine ne se limite pas à l'ONU. Je pense qu'elle va continuer. Elle n'a pas visé le poste du secrétaire adjoint aux opérations de maintien de la paix en 2016-2017. Elle s'est contentée du numéro 2 de la police de l'ONU. Mais il n'est pas exclu que la prochaine fois, elle s'attaque à ce poste-là. Mais elle investit aussi dans d'autres initiatives, ses propres initiatives à elle, les nouvelles routes de la soie, la Banque asiatique d'investissement des infrastructures, mais aussi elle avait été à la tête d'Interpol, elle cherche d'autres organismes internationaux.
On peut peut-être rajouter le Fonds monétaire international après le départ de Christine Lagarde, l'économiste Tao Zhang qui occupe l'un des postes de directeur général adjoint. Pékin pourrait briguer la direction générale, une fonction qui revient théoriquement aux Européens. Est-ce que les Européens sauront cette fois défendre leur position? C'est une question pour l'instant sans réponse. Alexandra Novoselov, sur tout ce qu'on évoquait précédemment, les batailles de la Chine à l'ONU dans les institutions internationales et puis au-delà les éventuels obstacles à cet entrisme chinois.
Alors je crois que l'une des prochaines batailles, qui est en fait une bataille constante, c'est de maintenir une espèce de cordon sécuritaire autour des sujets que j'avais précédemment évoqués au Conseil, où quand même la force de la diplomatie chinoise a été au Conseil de sécurité de faire intégrer par les partenaires du Conseil, et notamment les autres membres permanents, les lignes rouges chinoises en termes de non-ingérence. Donc il y a une extrême prudence de non-ingérence, de respect de l'État hôte, et surtout par rapport au sujet que j'avais précédemment évoqué. La prochaine étape, c'est certainement de devoir tenir la plume. On a parlé pendant un temps justement de l'Afghanistan, qu'elle tiendrait la plume sur ce dossier. Et puis, les obstacles, c'est aussi par rapport aux autres, c'est-à-dire quid du positionnement américain. On a vu que la Chine s'était en quelque sorte engouffrée dans une brèche laissée par les Américains. S'il y a un sursaut américain, si ils réalisent à un moment donné qu'ils ont été trop loin et que le vide est trop bien occupé par la Chine, il va y avoir une réaction. Et donc, je crois que c'est ça qui va doser, en fait, l'entrisme chinois. C'est la position des autres, notamment des Américains, dans une moindre mesure des Européens.
La France, tout de même, Alexandra Novoselov.
La France, mais on verra ce qu'il advient du Brexit, mais qui serait de ce fait le seul représentant de l'Union européenne, même si elle se présente pas comme ça, bien entendu. Du coup, l'Union européenne va être quand même assez divisée. Donc, est-ce que elle va pouvoir faire contrepoids quand même et apporter une voix différente face à la Chine quand même? Ça reste des questions à poser.
Arthur Boutelis, le sursaut américain. Vous y croyez ?
Bon, il est édicté, puisque si on lit le discours de secrétaire d'État Mike Pompeo à Bruxelles, par exemple, clairement, il est dit que le nouvel ordre libéral américain est là pour contrer la Chine, entre autres, l'Iran aussi. La question, c'est l'efficacité, puisqu'on l'a vu sur la FAO, l'élection, les États-Unis n'ont pas été efficaces. Et là, je pense que ça pose la question aussi de la relation transatlantique Europe-États-Unis, et dans quelle mesure celle-ci, avec l'administration Trump, peut être efficace face à la Chine sur certains dossiers, mais aussi, pour renforcer tout ce qu'Alexandra disait, comment l'Europe va arriver à travailler avec la Chine, puisqu'elle doit travailler avec la Chine sur certains dossiers, comme le climat. La Chine se présente quand même comme un soutien du multilatéralisme, et c'est essentiel à un moment où le multilatéralisme est confronté de toutes parts, attaqué de toutes parts. Mais comment faire ça sans véritablement compromettre les valeurs européennes? Je crois que c'est tout le défi qui se pose. Mais peut-être pour rajouter sur cette possible résistance, par rapport au poste que la Chine a réussi à sécuriser à l'ONU, je crois qu'il y a une question à laquelle on pense pas souvent, c'est la puissance de la bureaucratie. Est-ce que la tête d'une agence ou d'un département de l'ONU vous permet véritablement, au moins à court terme, de dédicter l'agenda? C'est pas dit, il y a aussi une résistance interne. On voit avec les réformes que le secrétaire général Antonio Guterres essaye de faire, il y a une résistance de la bureaucratie aussi qu'il faut pas ignorer. Et enfin, quand on parle de l'ONU, bien sûr, on parle de l'interétatique, mais si on reste sur l'interétatique, là encore, la Chine a l'arithmétique de son côté en termes du nombre d'États. Alors, il faut aussi voir au-delà des États, je pense, avec de plus en plus d'implications des sociétés civiles, du secteur privé, justement sur ces débats d'objectifs de développement durable, de climat, etc., etc., qui peuvent servir de contrepoint également.
Alors, la bureaucratie onusienne qui pourrait être un obstacle à l'entrisme, en tout cas empêcher finalement la Chine de parvenir à toutes ses fins de manière pratique. La présence de Chinois dans les instances, mais voilà, qu'est-ce que les Chinois pourront en faire? La question se pose. En tout cas, c'est ce qu'évoquait à l'instant Arthur Boutelis, un commentaire, Alexandra Novoselov.
Oui, c'est vrai que bon, en plus la Chine là est encore en phase de montée en puissance, c'est-à-dire qu'elle n'a pas forcément tous les profils en interne à mettre à disposition des Nations Unies. Elle reste quand même relativement prudente. Moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'elle ne voulait pas le poste de secrétaire général adjoint aux opérations de maintien de la paix, parce que je pense que c'est un poste trop exposé et qu'elle ne veut pas apparaître justement comme étant trop exposée, parce qu'elle veut apparaître effectivement comme une puissance quand même positive, et donc elle veut positiver sa présence, et donc d'avoir devoir gérer des casques bleus qui meurent chaque semaine, qui font face à des attaques, etc. C'est quand même très compliqué quand on a ce positionnement-là. Donc, on va voir comment elle joue, en fait, sur tous ces tableaux. Est-ce qu'à un moment donné, elle va se dire que finalement, au Conseil de sécurité, c'est quand même là qu'elle peut bloquer véritablement un certain nombre de choses? Ou est-ce qu'elle va essayer d'aller en interne pour que l'agenda soit plus en sa faveur? Voilà, je pense que la question reste encore posée, que les années à venir vont nous montrer sur quel tableau la Chine va vraiment jouer.
Alors, Arthur Boutelis, en guise de conclusion, je reviens à la question que je posais en fin d'introduction de l'émission. La Chine est-elle en passe de prendre le pouvoir aux Nations Unies ?
Bon, je crois que le comportement de la Chine en fait ressemble de plus en plus à celui d'une grande puissance. Ça attire beaucoup l'attention parce que, comme je disais, depuis 2015, on le voit beaucoup plus. C'est nouveau, mais je ne crois pas que ça doit surprendre. Peut-être ce qui doit surprendre, c'est que ce n'est pas arrivé plus tôt. Mmh. Alors la Chine utilise les leviers qu'elle a, le Conseil de sécurité, son poids grandissant de financement, sa contribution étant le premier P5 contributeur de troupes de casque bleu, les postes de leadership, etc. à son avantage. Et également, bien sûr, ce qui fait sa force, c'est sa proximité avec le G77 et le fait qu'elle est présente sur les trois piliers de l'ONU. Et elle est capable donc de construire des coalitions, d'agir sur tout le panel. Alors bien sûr, ce qui est à craindre, c'est qu'elle cherche à façonner le multilatéralisme en avançant sa propre ou ses propres visions plutôt. Cela inquiète, c'est pas le seul État membre puissant à essayer de le faire. Peut-être pour finir sur une note plus positive, je crois qu'il faut voir aussi l'ONU comme une plateforme importante où beaucoup d'États plus petits ont la possibilité justement d'engager ces grandes puissances, la Chine, les États-Unis, pour travailler avec eux. Et je crois que le soutien au multilatéralisme de la Chine est quand même important. Simplement, il faut s'assurer de protéger un certain nombre de valeurs et de pouvoir arriver à des consensus qui renforcent le multilatéralisme et qui ne l'affaiblissent pas.
Alexandra Novoselov.
Oui, bien, je suis bien entendu d'accord avec ça. L'idée, c'est vraiment de renforcer ce multilatéralisme, de maintenir un certain nombre de valeurs en termes de droits de l'homme. Et là, quand même, on a vu, par exemple, sur les postes des droits de l'homme que la Chine prétendument voulait réduire. Bon, finalement, à l'arrivée, il n'y a que trois postes qui ont été supprimés. Donc, il y a quand même une résistance interne qui joue, parce que, d'une certaine manière, les autres ont quand même une longueur d'avance. Et que, là encore, je crois qu'il faut en prendre conscience, l'unité au sein de l'Union européenne et puis la force ou pas de la relation transatlantique. C'est vrai que on ne peut que constater que le partenaire américain a fait défaut sur un certain nombre de ses valeurs récemment. Et donc là, ça affaiblit. Donc, bien entendu, ce sont des jeux de pouvoir, tout ça. Et ce qui fait la force de l'un fait la faiblesse de l'autre et inversement.
Merci. C'est la fin de Géopolitique. Alexandra Novoselov, je rappelle que vous êtes chercheur associé au Centre Thucydide de l'Université de Paris Panthéon Assas et chercheur non résidente à l'International Peace Institute et auteur, pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, de Le Conseil de sécurité des Nations Unies aux éditions du CNRS. Et Arthur Boutelis, qui était avec nous par téléphone, conseiller senior à l'International Peace Institute, enseignant à l'Université de Columbia de New York et auteur de plusieurs livres et un article sur la privatisation des opérations de maintien de la paix dans l'ouvrage intitulé « Vers une africanisation des opérations de maintien de la paix » chez l'Harmattan. Géopolitique était signé Marie-France Chatin et Nathalie Laporte. Demain, l'émission sera consacrée à la religion aux États-Unis. À demain.